Par actualité. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du 9 novembre 2017. Hélène Denis qui vous accompagne. En manchette aujourd'hui, programme d'accessibilité des établissements touristiques 2017-2022, le gouvernement du Québec investit 5 millions de dollars pour favoriser un tourisme accessible à tous. Elle pourrait perdre sa maison adaptée à sa fille. Un centre en développement sportif verra le jour, fermeture d'une résidence privée pour aînés à Rimouski. Gyptis, l'Institut des maladies rares, prend forme à Marseille et une Française a créé sa start-up ou sa jeune repousse à 23 ans. En entrevue, je reçois Jérémy Tremblay, nouveau directeur de Roulibus, et Caroline Gély, intervenante pour Autisme Estrie, qui vient nous parler d'une conférence sur la sexualité des personnes ayant un TSA. Une nouvelle sur le lézard.com en vue de faciliter l'accessibilité des personnes ayant une incapacité aux établissements touristiques du Québec. Le gouvernement du Québec investit 5 millions pour la mise en place d'un programme d'aide financière. Le programme d'accessibilité des établissements touristiques 2017-2022 sera géré et administré par l'organisme Kéroul. Il permettra aux entreprises touristiques ciblées d'obtenir un soutien financier pour la transformation ou l'amélioration de leurs infrastructures afin d'obtenir la cote accessible de l'organisme. Le marché du tourisme accessible connaît un intérêt marqué. Ce nouveau programme favorisera l'accès aux attraits et aux établissements d'hébergement touristique du Québec, entre autres, et permettra, nous l'espérons, de doubler le nombre d'établissements reconnus comme étant accessible d'ici les 5 prochaines années, a déclaré Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie. Je tiens à remercier la ministre du Tourisme, Mme Julie Boulet, non seulement pour la création de ce programme, qui contribuera à améliorer l'accueil de tous les visiteurs, mais également pour cette marque de confiance à l'égard de Kéroul, qui s'en voit confier la gestion, a déclaré André Leclerc, président directeur général et fondateur de Kéroul. Une nouvelle prise dans le journal de Montréal.com, elle pourrait perdre sa maison adaptée à sa fille. Une mère monoparentale de Repentigny risque de perdre sa maison adaptée pour sa fille lourdement handicapée à cause d'une nouvelle règle qui l'empêche de conserver son prêt hypothécaire. Avoir un enfant malade, ça demande énormément de sacrifices, de temps et d'énergie. Ça va faire bientôt 6 ans que je me bats jour et nuit pour mon enfant. Et là, la vie va m'enlever ma maison à cause d'une loi? Ça n'a pas de sens. La fille de Mélanie Castonguay est atteinte du syndrome FOXG1, une maladie orpheline qui touche environ un enfant sur 1 million. À 5 ans, la petite Léonie ne peut ni parler ni marcher, doit être gavée et souffre de fréquentes crises d'épilepsie. Depuis la naissance de Léonie, Mélanie Castonguay a dû renoncer à sa carrière de graphiste pour s'occuper de sa fille à temps plein. Ses seuls revenus proviennent de prestations gouvernementales et de la pension alimentaire que paye son ex-conjoint. Lorsqu'elle a rencontré son courtier hypothécaire en septembre 2016, il lui a expliqué que 2 co-signataires devaient l'endosser pour 1 mois si elle voulait avoir accès à un prêt. D'ici là, son revenu serait assez élevé pour qu'elle n'ait plus besoin d'être cautionnée, grâce à un nouveau supplément gouvernemental qu'elle allait toucher. Mais en octobre, les règles hypothécaires ont changé. Son revenu ne lui permettait plus d'accéder à un prêt sans caution comme prévu. Son courtier lui a alors conseillé de demander à ses co-signataires de le rester pendant 1 an, le temps qu'elle prouve que son crédit était bon. Sauf qu'aujourd'hui, le fait que la mère monoparentale paie ses versements hypothécaires de 1 300 $ chaque mois depuis 1 an n'est pas encore suffisant pour que les banques lui laissent son prêt sans co-signataire à cause des mesures édictées par le gouvernement fédéral. Si rien ne change d'ici décembre, Mélanie Castonguay devra vendre le nid douillet qu'elle a créé pour Léonie. Plus de 60 000 $ en dons et en subventions ont été investis pour adapter la maison, qui est désormais munie d'une rampe d'accès, d'un lève-personne et de cadres de porte assez larges pour un fauteuil roulant. Une campagne de sociofinancement intitulée « La maison de Léonie » a été lancée sur le site Internet GoFundMe. Plus de 7 000 $ ont été amassés jusqu'à maintenant. Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec le nouveau directeur de Roulibus, Jérémy Tremblay. Bonjour, M. Tremblay.
Bonjour, comment allez-vous?
Bien, ça va bien, merci. Et vous?
Oui, très bien, merci.
Félicitations pour votre nomination au poste de nouveau directeur de Roulibus.
Merci beaucoup, bien oui, effectivement. C'est un poste que j'ai pris justement il y a peut-être, ça fait un peu moins de 3 mois.
Ah oui, c'est relativement récent, hein?
Oui, effectivement.
Et donc, Roulibus, c'est un organisme à but non lucratif, mais c'est aussi une entreprise de 15 employés avec un budget autour de 1 million de $. Un beau défi pour vous?
Oui, effectivement. Oui, c'est vraiment une très belle entreprise, justement, qui avait plus de 35 ans d'expérience, justement,
ah oui,
dans le domaine du transport adapté.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler pour Roulibus?
En fait, moi, je venais du monde municipal lorsque j'ai fini mes études universitaires. J'ai travaillé dans une petite municipalité du coin comme directeur général adjoint. Et je cherchais à faire justement le prochain pas dans mon parcours de travail. Et le poste ressemblait beaucoup à ce que je faisais, effectivement. Il y a quand même certaines ressemblances entre le monde municipal et le monde communautaire. Et aussi, justement, effectivement, c'est une nouvelle opportunité pour moi aussi. Donc, un nouveau domaine aussi, donc, celui de transport adapté.
Oui, est-ce que vous connaissez quelque chose dans le transport adapté avant d'être nommé directeur?
Je ne peux pas dire qu'effectivement, j'avais connu beaucoup ça. Mais en fait, j'avais été, justement, sensibilisé à cela parce que, justement, j'étais dans une petite municipalité où, justement, il y avait des gens qui avaient besoin de transport adapté, mais c'était plus de façon indirecte que j'avais été, effectivement, sensibilisé par ça. Et aussi, oui, je connais aussi certaines personnes qui utilisent le transport adapté pour leurs enfants qui ont des besoins, justement, à ce niveau-là. Donc, c'était quelque chose que, effectivement, je connaissais, mais pas autant, effectivement, j'en ai appris beaucoup depuis mon arrivée en poste.
Oui, j'imagine. Et qu'avez-vous fait tout de suite en arrivant en poste?
En fait, moi, la première chose que j'ai faite, c'est justement de connaître l'équipe qui était en place. On avait quand même beaucoup d'employés et de chauffeurs très expérimentés. Et justement, même dans le bureau, on a des employés très expérimentés de 7 qui font ça depuis des années. Donc, justement, c'était de savoir un peu leur mode de travail pour, peut-être effectivement, ajouter un peu ma couleur et ajouter justement faire des modifications pour leur permettre de faire un meilleur travail et d'améliorer le travail.
Oui, parce que Roulibus transporte 7 jours sur 7 des personnes dont le handicap limite la mobilité physique. Déjà, vous êtes pas mal occupé. C'est toute la semaine au grand complet. Vous avez une flotte de 4 autobus, un minibus et 2 taxis adaptés?
Oui, effectivement, c'est ça. Puis, ça a été aussi d'autres choses. Justement, déjà, il y a eu beaucoup de modifications au niveau de Roulibus parce qu'on dit qu'il y a 4 autobus et le minibus aussi, qui a été mis en branle il y a à peu près 3 ans.
Oui.
Et ce qui est taxi adapté, justement, qui a été fusionné, bien, qui est dans les services maintenant depuis un peu plus d'un an. Donc, déjà là, j'ai beaucoup de choses différentes à apprendre pour moi déjà en arrivant.
Oui, et votre principal défi que vous aurez à relever d'ici les prochains mois, au cours des prochains mois?
En fait, c'est surtout un peu un maintien des services parce que, pour vous donner un exemple, justement, le minibus, il faut le renouveler. C'est un projet de 3 ans. Et là, il faut renouveler ce projet-là, justement, pour un autre 3 ans.
Mm-hmm.
Parce que surtout le minibus en question nous a permis justement de couvrir un plus grand territoire parce que notre territoire, c'est le MRC d'Athabasca, reconnu surtout pour la ville de Victoriaville où la plupart de la population réside, mais il y a aussi d'autres petites municipalités qu'il faut couvrir comme Amnord, Saint-Valère, des petites municipalités, justement, plus à distance. Et le minibus en question, depuis qu'on l'a, avant l'achat du minibus, il y avait une liste d'attente pour être membre de Roulibus.
Mm-hmm.
Mais depuis ce temps-là, cette liste d'attente-là était éliminée aussi. Donc,
c'est encourageant?
Oui, c'est très encourageant, effectivement. Puis le minibus nous a permis justement une meilleure flexibilité au niveau des transports, au niveau des retours sur appel. Donc, permet justement là, de mieux combler les services avec cet équipement-là. Donc, c'est maintenant rendu essentiel pour nous justement de fonctionner.
Oui, donc ça vous prend de l'argent pour faire rouler cet autobus-là?
Oui, effectivement, ça prend des subventions justement venant de plusieurs paliers gouvernementaux.
Oui, qui vous donne de l'argent?
En fait, ben, au niveau justement là, du roulibus en général, il y a les municipalités, chaque municipalité participante de la MRC d'Arthabasca, ainsi que le gouvernement du Québec, bien sûr, par
Ministère
la
des
subvention.
Transports.
Oui, ministère du Transport qui nous donne aussi des subventions. Au niveau du minibus, en fait, on avait justement trois partenaires, donc la MRC, la ville de Victoriaville et le C3S, en fait, le centre de santé justement de la région.
Vous allez les relancer?
Oui, dans les prochains mois, justement, on va tenter justement d'aller rechercher des subventions pour prouver justement aussi de maintenir, ça va être facile, parce qu'on a justement prouvé les bienfaits de ce service-là. Et avec les 3 ans qu'on a justement derrière la cravate, si je pourrais
Ouais.
dire,
Selon
c'est
vous, c'est
prouvé.
dans la poche.
Ben, c'est dans la poche, sinon c'est
Il n'y a
toujours
jamais rien
d'aller.
d'acquis.
C'est jamais rien d'acquis, justement, quand on va chercher de l'argent, mais je pense que le service en question a prouvé ses effets et a prouvé justement ses bienfaits.
Oui.
Donc, ça va être facile pour nous de prouver qu'effectivement, c'est essentiel pour nous de rendre un bon service avec le minibus.
Et combien de personnes utilisent vos services?
Je vous dirais, il y a à peu près 600 membres qui sont chez Roulibus,
Faut
mais
être membre pour participer,
oui,
ben pour
effectivement.
avoir ces services-là.
Pour Roulibus, effectivement, il faut faire une demande, un peu comme n'importe quel autre organisme de transport adapté. Pour effectivement, là, faut être justement des personnes qui sont atteintes de façon permanente au niveau physique ou mental.
Ouais.
À ce niveau-là, justement, nous, maintenant, avec le taxi adapté, on peut faire justement du taxi privé, qu'on appelle en fait. C'est des personnes qui auraient, exemple, des blessures temporaires. Donc, je prends un exemple, les deux jambes dans le plâtre. On peut faire justement des transports, mais ça, à ce moment-là, ce n'est pas les mêmes tarifs aussi, là. C'est des tarifs un peu comme au taximètre, un peu
OK.
plus traditionnel, tandis que Roulibus, c'est un tarif fixe, peu importe la distance.
Ben, Jérémy Tremblay, nouveau directeur de Roulibus, c'est parti. Un grand merci et puis bon succès.
Mais merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée.
Dans la tribune.ca, c'est maintenant officiel. Un premier centre de développement sportif verra le jour à Sherbrooke au début de 2018. Une ancienne olympienne en nage synchronisée, Stéphanie Leclerc, et une ex-artiste du cirque Le Rêve à Las Vegas, Laurie-Anne Bédard, mettent leur passion du sport en commun pour lancer Jiminy, une plateforme misant sur le développement de l'athlète à long terme, mais aussi pour développer les habiletés motrices et donner le goût de bouger aux enfants. Au cours des derniers mois, elles ont trouvé non seulement des partenaires financiers dénicher un local sur le boulevard Bourque, mais aussi tisser des liens avec les associations sportives de la région et la Fondation Christian Vachon. La Fondation parrainera des enfants qui ont des lacunes avec leur développement moteur. Nous partageons la même vision d'inculquer cette notion de plaisir à bouger, explique Lauriane Bédard. L'un des volets de Jiminy est de développer des athlètes complets en repoussant la spécialisation dans un seul sport. Des athlètes en baseball, en natation et en nage synchronisée devraient venir s'entraîner avec nous pour développer d'autres habiletés que celles qu'ils retrouvent dans leur sport. Le programme est adapté en fonction de chaque sport afin de développer des sportifs pour la vie, explique Lauriane Bédard. Un volet en développement moteur pour les bébés à partir de 6 mois et par groupe d'âge jusqu'à 12 ans sera aussi offert au grand public. Des portes ouvertes seront organisées dans la semaine du 6 janvier 2018 avec la présence d'athlètes olympiques. Les cours doivent commencer dès le 15 janvier. Il est déjà possible de visiter le site www.gymini.ca et de s'inscrire. Sur tvanouvelle.ca, une cinquantaine de personnes âgées seront forcées de déménager dans les semaines à venir en raison d'une enquête du protecteur du citoyen qui entraîne la fermeture de la résidence pour aînés Domaine La Marguerite de Rimouski. À la suite d'une enquête amorcée après une plainte d'un citoyen, le protecteur du citoyen a déterminé que la résidence n'est pas conforme. Notamment, la vérification des antécédents judiciaires des membres du personnel est incomplète, tandis que les accès pour les personnes à mobilité réduite sont non sécuritaires. Les propriétaires de la résidence privée pour aînés ont aussi mal géré une infestation de gale, a jugé le protecteur. Bien qu'il ait eu droit à 30 jours de sursis, les propriétaires n'ont pas apporté les correctifs nécessaires. Le Centre intégré de santé du Bas-Saint-Laurent, qui a aussi mené son enquête, a donc décidé de retirer le certificat de conformité de cette résidence. Les 52 personnes âgées qui y vivent seront toutes déménagées dans d'autres établissements d'ici le 15 décembre. Entre-temps, des représentants du Centre intégré de santé vont s'assurer du bien-être des résidents du domaine La Marguerite. Le directeur de la qualité des soins au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Gino Beaudoin, se fait rassurant. On prend le temps d'évaluer les besoins, on fait du cas par cas. Il y a une équipe d'intervenants qui va accompagner chacun des usagers et la famille aux besoins, a-t-il expliqué. Il y a actuellement 142 résidences privées pour aînés au Bas-Saint-Laurent qui peuvent accueillir près de 4600 personnes au total. Pour opérer, elles doivent toutes obtenir un certificat de conformité. Je m'entretiens avec Caroline Gély, intervenante pour Autisme Estrie, qui va nous parler d'une conférence donnée par Nancy Michaud sur la sexualité des personnes ayant un TSA. TSA qui signifie trouble du spectre autistique. Ça va se passer à Sherbrooke le 20 novembre. Il sera question de développement psychosexuel, de changement à l'adolescence, de profil sexuel particulier, de toutes sortes de problèmes. Bonjour, Madame Gély.
Bonjour, Hélène.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Et vous?
Oui, ça va, merci. Alors, il sera question donc, en premier lieu, de développement psychosexuel. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, le développement psychosexuel? Et est-ce que c'est différent chez les personnes ayant un TSA?
Dans le fond, le développement sexuel, il faut savoir que ça inclut plusieurs facteurs. Mm-hmm. Il y a le développement social, le développement affectif, le concept de soi, l'identité et la sexualité. Donc, tous ces facteurs-là sont le développement psychosexuel.
D'accord. Est-ce qu'on observe un développement psychosexuel différent chez les personnes ayant un trouble du spectre autistique?
Oui. Excusez, je vous ai coupé.
Non, ça
on peut
va.
Dire que oui, parce que chez les TSA, il y a un décalage entre l'âge chronologique, donc la date de notre fête, puis le niveau de maturité affective du jeune, donc où est-ce qu'il est rendu dans son développement. Donc, avec cette différence-là entre ce qui se passe dans son corps et qu'est-ce qui se passe dans la réalité, on peut dire que leur développement est différent. Les changements liés à la puberté, en moyenne, ils arrivent au même âge qu'un jeune neurotypique. Mais la question, c'est de savoir s'ils auront la maturité affective de comprendre, de vivre et de s'adapter à ces changements physiques-là. Mmh.
Quand vous dites un jeune neurotypique, vous parlez de qui exactement? Quelqu'un qui
n'a
pas le trouble?
Exactement. On appelle les gens neurotypiques, là, ceux qui n'ont pas le trouble du spectre de l'autisme.
D'accord. Et à quoi s'attendre, quoi doivent s'attendre, dis-je bien, les parents d'un enfant autiste, notamment à l'adolescence?
Mais comme on le sait tous, la période de l'adolescence, c'est une période de très grands changements
oui.
Et d'imprévisibilité. Donc, si l'enfant, l'adolescent, n'est pas préparé, il peut avoir le niveau d'anxiété qui va augmenter avec tous ces bouleversements-là.
Hormonaux, etc.
Oui, mm-hmm. Exactement. Du coup, c'est plus facile si on enseigne. Évidemment, plus on enseigne tôt à son enfant qu'est-ce qui va se passer dans son corps, puis comment est-ce qu'il va pouvoir réagir en fonction de ça, c'est plus facile s'il est préparé.
Oui, c'est tout un défi hein, d'apprendre les rudiments, si je peux dire, psychosexuels à son enfant. Comment on s'y prend?
Idéalement, plus on commence tôt, plus c'est facile.
Oui.
On peut commencer, par exemple, tout bébé, là, quand on change la couche, à nommer les organes génitaux. Ça peut être aussi simple que ça. Puis plus l'enfant va grandir, plus on va lui enseigner que ces parties-là sont intimes, qui a le droit d'y toucher, qui n'a pas le droit. On va s'attarder à la notion d'intimité, de pudeur. Puis plus
oui.
Le temps va passer, plus on va rajouter des détails. Puis il faut savoir que les enfants sont satisfaits avec très peu d'informations.
C'est ça, il ne faut pas en mettre plus que le client demande.
Non, c'est ça. On en donne le minimum pour qu'il soit rassuré puis qu'on voit et qu'il est comme qu'on a répondu à ses questionnements. Mais on n'en donne pas trop de détails pour pas non plus l'inquiéter. Puis on va en rajouter au fil du temps.
Est-ce qu'on doit craindre davantage pour l'intégrité sexuelle d'un enfant parce qu'il est autiste?
Malheureusement, oui. Parce que la plupart des jeunes qui ont un diagnostic, là, ça peut être un diagnostic d'autisme ou de déficience intellectuelle, peu importe le diagnostic, souvent, ils sont plus vulnérables qu'une personne sans diagnostic. Mm-hmm. Leur estime d'eux-mêmes peut être plus basse. Ils sont généralement plus naïfs. Je fais une généralité, évidemment, ils ne sont pas tous comme ça, mais ils peuvent aussi avoir de la difficulté à distinguer les dangers. Vu qu'ils sont naïfs puis qu'ils voient pas forcément le mal, ben ils vont pas avoir conscience de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Donc ils sont plus vulnérables. Donc malheureusement, ils vont être plus on peut plus craindre pour leur intégrité sexuelle, mais on peut les préparer.
Oui, d'où l'importance de les préparer, de bien les encadrer. Et une question qui est très actuelle de ces temps-ci, mais qui est toujours actuelle finalement, comment on aborde la question du consentement avec
C'est une très bonne question.
Ouais.
Puis c'est très important. On prend l'exemple, par exemple, aux fêtes d'anniversaire. Ça peut être un très bon moyen d'apprendre à l'enfant à exprimer s'il a envie ou non de donner des becs ou des câlins à tout le monde. On a comme un petit rituel de donner la tournée des becs à ceux qui ont offert des cadeaux, par exemple. Mm-hmm. Puis là, ça va être important si on voit que notre enfant est pas à l'aise ou qu'il le nomme, il faut respecter ça.
Ouais.
Il faut vraiment lui enseigner que si t'as pas envie de recevoir une tournée de bisous, ben on peut donner un remerciement autrement. Parce qu'il va être en mesure d'écouter son instinct. Si on va à l'encontre de ça, il va comprendre que quand quelqu'un nous donne quelque chose, on doit lui faire plaisir en retour.
Il faut que le message soit clair.
Exactement. Ça, c'est très, très important. Il faut dire les vraies affaires, puis clairement, on explique avec des mots simples au premier degré. Puis quand les choses sont dites, elles sont généralement très bien comprises.
Alors, tous les sujets dont on vient d'aborder... dont on vient de parler, dis-je bien, seront abordés lors de la conférence de Nancy Michaud et même plus, là, parce que c'est une
Exactement.
Journée complète ou une soirée, n'est-ce pas?
Oui, une soirée de 18h45 à 21h15.
Oui.
Et on va proposer une partie 2 là, avec des outils plus concrets, vraiment des outils là, pour aider les parents à travailler concrètement avec leur enfant à ce sujet-là. Ça sera à l'hiver, parce que le sujet est tellement grand qu'on va le faire en deux fois.
C'est infini. Alors, où s'inscrire et quel est le tarif pour assister à la conférence de Mme Michaud?
Alors, vous pouvez nous appeler chez Autisme Estrie au 819-822-3918.
Mm-hmm.
Puis, le tarif, c'est de 10 $ pour la soirée si vous n'êtes pas membre de notre organisme communautaire. Sinon, c'est gratuit pour les membres.
Bon, donc la conférence de Nancy Michaud, 20 novembre, 18h45, dans les bureaux de l'association 2350 rue de Rouville à Sherbrooke. Caroline Gilly, merci beaucoup.
Merci à vous.
À la prochaine.
Bonne journée.
Vous aussi. Une nouvelle sur France 3, trait d'union région.france.tv, info.fr. GYPTIS, l'Institut des maladies rares, prend forme à Marseille. On sait désormais à quoi va ressembler le futur Institut GYPTIS, Genetics Institute for Patient Therapy, Innovation and Science, le plus grand institut euro-méditerranéen de lutte contre les maladies génétiques rares qui doit ouvrir ses portes à Marseille en 2020. L'architecte Will Mott, en charge du projet, présente ses plans dans une vidéo postée sur son site. Le futur bâtiment GYPTIS est une métaphore de l'espoir, un lieu dont la sérénité exceptionnelle en fait un espace privilégié tourné vers le paysage et vers l'avenir, explique l'architecte du projet. L'Institut GYPTIS regroupera des spécialistes et des experts de la recherche sur les maladies génétiques rares. Il permettra de recevoir 10 000 consultations par an. Le bâtiment ultramoderne de 22 000 m² abritera également près de 300 chercheurs français et internationaux, 6 centres de ressources technologiques, 12 entreprises privées associées au projet de recherche. Le professeur Nicolas Lévy, généticien de renommée internationale, directeur du département de génétique médicale à la Timone Enfant à Marseille, a été nommé à la tête de cet institut dont le coût est estimé à 73 millions d'euros et porté par la Fondation GYPTIS. On recense 7 à 8 000 maladies rares dans le monde aujourd'hui et 5 nouvelles maladies rares sont décrites chaque mois dans la documentation médicale. Sur leséchos.fr, une Française a créé sa start-up à 23 ans, Sarah Cheruot. Anouge a créé et dirige depuis 2013 Auticiel, une start-up ou une jeune pousse qui développe des solutions numériques sur tablette pour l'autonomie et l'apprentissage des autistes et des personnes ayant un handicap cognitif. Déterminée, la jeune femme entraîne au pas de course les 10 salariés d'Auticiel. Après 2 ans de préparation littéraire, cette passionnée d'histoire comprend que son besoin d'action est plus fort que la recherche sur le passé. Elle intègre donc en 2009 Télécom École de Management à Évry, où elle s'investit en parallèle dans pas moins de 5 associations diverses et devient même présidente d'une petite radio locale. En 2011, comme les autres élèves, elle participe avec une équipe pluridisciplinaire de commerciaux et ingénieurs au Challenge Projet d'entreprendre, avec un projet de tablette pour enfants autistes, suite à une rencontre avec la présidente de l'association Sur le chemin des écoliers. Celle-ci observe que la tablette, avec son côté tactile et intuitif, est un bon outil pour son fils autiste. L'aventure était lancée. Le projet remporte le challenge. Forte de ce succès, Sarah participe peu après avec le même sujet au week-end Hackathon, une séance collective de programmation informatique d'où sortira un premier prototype où elle rencontrera son futur associé, François Dupéra. Tout en faisant une année de césure à Londres, elle poursuit à distance le développement de la tablette et intègre en octobre 2012 l'incubateur de Télécom EM, puis en 2013, le Camping, aujourd'hui Numa, premier incubateur de start-up numérique. Seule fille CEO et fondatrice à l'école. À l'époque, dis-je bien, avec un projet tech sur le handicap, j'étais un ovni, rappelle-t-elle en souriant. Très vite, alors qu'elle était sortie en toute confidentialité, les retours sur l'appli disponible sur iStore ou eStore caracolent en tête des applications d'éducation. Et c'est avec un immense plaisir que la Fédération québécoise de l'autisme se joint au sommelier en bière Alain Harbour de Dégustation et Animation de la Rive et au brasseur Pascal Desbiens et ses associés Sylvain Beaulieu, Nicolas Gagné et Sylvain Ménard de la microbrasserie L'Arsenal pour vous convier au lancement de la toute nouvelle bière L'Autre Monde. L'histoire touchante qui a mené à la création de ce savoureux breuvage vous sera révélée le 9 novembre, aujourd'hui, de 17h à 19h à l'école hôtelière de la capitale située au 7 rue Robert-Rumilly à Québec. En dégustant votre bière L'Autre Monde, cette NEIPA n'est pas au profil très aromatique qui laisse l'impression d'un jus tropical houblonné. Vous pourrez admirer sur étiquette le logo réalisé par un jeune adulte autiste, Arnaud Vurmunoz. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et merci à mes invités, Jérémy Tremblay de Roulibus et Caroline Gély, intervenante pour Autisme Estrie. Ici Hélène Denis, merci à vous, les auditeurs, d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine ou n'importe quand sur notre site Internet, Canal M de Vues et Voix. À bientôt.